Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Courtoisie, ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement parce que nous sommes le 17 février aujourd'hui et que nous fêtons le nouvel an lunaire avec la communauté asiatique. Alors, Chine et Vietnam uniquement, mais c'est quand même pas loin d'un tiers de la population du monde.
Mais oui, de
bonjour, cher Eric.
Bonjour Didier, bonjour chers auditeurs.
Alors, pour la communauté asiatique, enfin en tout cas pour les Vietnamiens, les Chinois, je ne saurais pas le dire, mais Chúc Mừng Năm Mới, ce qui signifie tous les vœux de bonne année, de prospérité, etc. Et on écoute donc un tout petit peu encore cette belle musique harmonieuse qui ne correspond pas tout à fait à notre culture, avec des instruments très particuliers. Un jour, on fera une émission d'ailleurs, parce que c'est très extrêmement complexe. La musique, il ne faut pas croire que c'est une improvisation sur ce que l'on veut. C'est extrêmement codifié, autant certainement, autant que tous nos traités de composition en Europe. On entendra peut-être un peu plus un autre jour. Et j'ai une autre surprise, car là, vous entendez une musique très traditionnelle du Vietnam. Oui. Et il faut savoir que la musique vietnamienne a évolué comme toutes les musiques du monde, avec, paradoxalement d'ailleurs, la présence américaine, puisque c'est toutes les musiques rock, enfin, etc. Tout ceci naturellement séduit la jeunesse vietnamienne. Et là, encore un petit extrait d'un air de musique que vous allez forcément reconnaître, mais qui est bien en vietnamien. Si vous tendez l'oreille, ça n'est pas de l'américain, ça n'est pas de l'anglais, et c'est un thème que vous reconnaîtrez certainement, chers auditeurs. Voilà, cette façon vietnamienne d'interpréter la musique de Titanic, ce qui prouve bien que la musique vietnamienne a évolué aussi. Il y a des musiques encore beaucoup plus, pas trop le métal, etc., parce que les Vietnamiens et les Chinois sont très, très friands de karaoké.
Ah oui.
Et que pour chanter du karaoké, il faut quand même qu'il y ait une certaine mélodie. Par
mais
conséquent,
oui,
tout
oui,
ce,
oui.
ce dont on nous abreuve aujourd'hui dans des radios qu'il ne faut pas fréquenter, chers auditeurs, comme vous le savez, eh bien, effectivement, ça passe assez mal, y compris dans la musique vietnamienne ou la musique chinoise moderne. Voilà.
Mais ces musiques asiatiques sont absolument magnifiques. Alors, j'ai eu la chance de bien connaître Alain Kremski, qui était le frère de Laurent Petit-Girard, donc, et qui était d'abord un merveilleux pianiste, Grand Prix de Rome.
Il
le plus jeune Grand Prix de Rome avec Debussy. Mm-hmm. Et il s'était beaucoup tourné vers les bols tibétains. Mais c'était extraordinaire. D'abord, il en avait énormément. Et j'ai eu la chance de vivre plusieurs jours avec lui au Moulin d'Andé.
Bien sûr.
Où c'était en plein été, il y avait des stages de disciplines asiatiques, c'était extraordinaire. Et il m'a appris vraiment à écouter. C'est extraordinaire.
C'est une vibration naturelle qui est très très profonde et très thérapeutique.
Et très thérapeutique, absolument extraordinaire. Il y a plusieurs CD qui ont été réalisés par Alain Kremski avec ses bols tibétains. Je vous les recommande, chers auditeurs, parce que, comme vous dites, Didier, c'est thérapeutique et en même temps, c'est... Lorsqu'on écoute ces CD, on est plongé dans un autre univers.
Dans un autre univers, absolument. De méditation, pas forcément transcendantale, mais de méditation. On en reparlera de cette musique asiatique.
Écoutez, à ce moment-là, j'amènerai ces CD.
Je suis tellement fan de l'Asie que j'ai énormément de disques préservés, d'ailleurs, après ce qui m'est arrivé. J'ai donc toutes sortes de traditions, la tradition de Hue, la tradition de Hanoï, la tradition, etc. Les traditions, les musiques impériales, les musiques populaires, il y a des... Enfin, tout ça est très complexe d'ailleurs, mais c'est très intéressant.
Eh bien, chers auditeurs, nous allons vous réserver une
prochaine émission.
Une émission.
Alors, aujourd'hui, il y a cet événement, 17 février, c'est bien aujourd'hui, la fête du Tête, donc le nouvel an lunaire. Et puis, nous aurons, au cours de cette émission, on rattrapera un peu le temps, mais le 14 février, chez nous, c'est la Saint-Valentin. Or, il se trouve que l'amour en musique, évidemment, est extrêmement porteur. Alors, c'est un amour à l'opéra qui se passe généralement assez mal. Hein. Il faut reconnaître que la plupart du temps, l'opéra étant un drame, les amours de l'opéra, quand on dit « je t'aime » à l'opéra, il y a des significations très particulières et nous allons, au cours de cette émission, on va écouter beaucoup de musique, au cours de cette émission, chers auditeurs, nous allons égrener en quelque sorte les différents amours qu'on peut rencontrer, l'amour frivole, l'amour fidèle dans le couple, ce qui n'est pas si fréquent en musique, l'amour mélancolique, l'amour trahison et les quelques couples mythiques en fonction du temps que nous aurons.
L'amour a beaucoup inspiré Mozart, attention.
Bien, dans tous les sens du terme. Bon, on s'en tiendra là pour aujourd'hui. Quelques annonces, Eric.
Quelques annonces, effectivement. Écoutez, je reviens aux annonces habituelles. Les concerts de l'association Musique et Patrimoine, toujours aussi nombreux et réguliers, pratiquement tous les jours en l'église Saint-Éphrem. Concerts de musique de chambre, récital de piano aux chandelles. Situé donc 17 rue des Carmes, dans le 5e arrondissement, et concert également l'église de la Madeleine par les violons de France et la soprano Cécile Bénard. Donc très régulier, c'est des seuls bureaux de concert, on peut dire, qui soient réguliers toute l'année, y compris en été, puisque en été, la plupart des salles de concert sont fermées. La salle qui tourne le plus, c'est peut-être bien l'église de la Madeleine.
Oui, hein. Voilà.
Bon, si Monseigneur Chauvet nous entendait, il dirait que c'est d'abord
une église.
Voilà. On a tout à fait raison. Et il faut dire que la musique à la Madeleine, au cours des offices, est de très très bonne qualité. Justement, alors je voudrais vous préciser que dimanche prochain, nous serons le 22 février, et en l'église de la Madeleine, les dimanches musicaux de la Madeleine vous proposent un récital d'orgue qui sera offert par une invitée qui s'appelle Ludmila Matsuira, qui est en fait une organiste espagnole, organiste à Madrid. Voilà, qui sera donc, offrira ce récital, nous proposera ce récital à 16h, dimanche 22 février, en l'église de la Madeleine, sur ce magnifique grand orgue qui est le grand orgue historique qu'a Veille École admirablement entretenu par François-Henri Houbart. C'est un plaisir, voilà. Bien, et ben écoutez, voilà les annonces que j'avais, très brèves.
Alors, quelques commentaires sur la vie culturelle et musicale parisienne et pourquoi pas internationale, on va le voir. Tout simplement, les Victoires de la musique qui ont eu lieu récemment. Alors, je dois dire que n'ayant pas la télévision, je n'ai pas pu apprécier les Victoires de la musique, mais par contre, il y a quelques commentaires qui ont été faits, en particulier par l'excellent Nicolas Gauthier sur Boulevard Voltaire, et qui s'étonne du prix spécial des victoires de la musique remis au groupe Indochine. Décidément, on ne sort pas de l'Asie aujourd'hui, n'est-ce pas ? Non, pour sa dernière tournée. Alors, je ne sais pas pourquoi ce groupe a pris ce terme-là. Chers auditeurs, si vous êtes dotés d'Internet, n'hésitez pas à vous rendre sur Boulevard Voltaire pour voir la critique qu'en fait Nicolas Gauthier, qui est, comme à son habitude, extrêmement pertinente, mais qui renseigne beaucoup sur ce groupe, qui est un groupe, c'est pas moi qui le dis, mais il dit bien, donc deux frères jumeaux qui... de bonnes familles par ailleurs, qui ont envisagé l'un maltraite sa guitare et l'autre joue des claviers avec la vivacité d'un garçon de bureau planté derrière un fax. Enfin, ça donne le ton un petit peu de cet article. Je trouve que c'est assez intéressant, surtout quand on lit cet article, mais surtout de voir la disparité entre... ce groupe Indochine qui a un succès considérable dans la jeunesse, puisque leur dernière tournée a réuni 1 million de spectateurs.
Ah bon ?
C'était une tournée en plusieurs concerts, oui. 1 million de spectateurs, pour une musique qui naturellement, bon, esthétiquement parlant, je n'en ferai aucun commentaire, parce que pour ma part je ne la supporte pas, mais je respecte infiniment le goût des uns et des autres. Mais c'est vrai que quand on voit le succès que peut avoir, ça inquiète beaucoup sur le discernement esthétique de toute une frange de la population, et en particulier de cette jeunesse qui est abreuvée de ces musiques en permanence, et qui, naturellement, ce sont des musiques qui déforment l'oreille, qui ne rendent pas... c'est peut-être un peu violent de dire ça, mais qui ne rendent pas vraiment intelligent. C'est le beat qu'il faut taper sur les casseroles, enfin, etc. Voilà.
Ben, il n'y a pas de formation musicale dans les écoles, ou très peu. Enfin, les quelques lycées ou écoles où il y a de la formation musicale sont quand même en nombre très, très, très restreint. Et puis, comme vous dites, ils sont abreuvés par des chaînes radiophoniques qui n'apportent rien. Quoi,
et si vous trouvez quelqu'un dans le métro qui n'a pas de casque pour écouter ce genre de musique sur leur téléphone portable, alors interrompez-le et demandez-lui si vraiment il est dans un état normal, car je dois dire qu'à 99,80%...
Vous et moi, on doit être anormaux, certainement. Bah, écoutez, je préfère être anormal comme ça.
Alors, autre commentaire très rapide, mais là aussi, il y a tellement de développement à faire... Eh ben, c'est notre ancien ministre de la Culture, quand même, libre journal de la culture et de la musique.
Ouais. En plus,
le créateur de la fête de la musique, qui a été... je trouve que c'était, à l'origine, une excellente initiative. Pouvoir donner l'occasion à des groupes amateurs, dont certains étaient vraiment de très grande qualité, de pouvoir s'exprimer. Et puis, comme toujours, d'ailleurs, en socialie, les choses ont évolué, dérivé, et aujourd'hui la fête de la musique est essentiellement, sauf dans certaines petites villes, mais autrement c'est essentiellement des musiciens professionnels qui tuent le métier parce qu'ils ne sont pas payés ce jour-là, naturellement, la plupart. Bon. Et en fait, cette fête a été complètement dévoyée, alors que l'initiative première,
bonne,
je trouve, était bonne.
Oui, c'est vrai.
Je me souviens, dans certaines fêtes de la musique, avoir entendu des choses tout à fait remarquables qu'on n'aurait jamais pu entendre s'il n'y avait pas eu cette initiative. Donc voilà. Alors évidemment, celui qui a commis tout ceci, c'est Jacques Lang. Et là aussi... Que voulez-vous ? C'est une dérive complète. Je me souviens d'avoir participé, de le rappeler, à une émission de télé, de radio, où on m'avait demandé à moi, pauvre petit embryon que je suis, ce que je ferais si j'étais ministre de la Culture. Et j'avais cru bon de dire, écoutez, la première chose que je ferais, c'est que je supprimerais le ministère de la Culture. Bon. Alors c'est du sabordage, évidemment. Mais le simple fait qu'il y ait un ministère de la Culture dans une époque où seule la subvention permet de survivre pour les artistes, c'est en un mot la mainmise complète sur la culture. Voilà. Alors on va me dire, oui, mais comment faire autrement, etc. Autrement, il y avait, dans des temps très anciens, il y avait des mécènes qui avaient du goût qui avait du discernement, qui avait une oreille, qui avait des yeux pour voir. Et par conséquent, lorsque le mécène souhaitait soutenir un artiste, il lui donnait les moyens de vivre et de produire ce qu'il avait musicalement, picturalement, etc. Et puis la subvention est venue, donc aujourd'hui c'est l'État qui dirige la culture, et on sait dans quelle orientation l'on est. On le voit par exemple avec le groupe Indochine ou avec des éléments comme celui-là. Toutes les expositions de peinture contemporaine, toutes les
oui,
le dévoiement absolument culturel du château de Versailles, de beaucoup de lieux comme ça, la raffinerie de pétrole qu'on est en train de refaire plus ou moins là, je crois, à Beaubourg là, il faut, faut retaper parce que les tuyaux rouillent. Enfin, je veux dire, bon, on est dans un système qui n'a plus qui n'a plus de raison d'être, qui n'a plus ni queue ni tête, et naturellement, et ben c'est Jacques Lang qui a présidé un peu à tout ça. Epstein, dans un de ses tweets, ou c'est la fille de Jacques Lang, peut-être, je ne me souviens plus. Enfin, ça a été diffusé dans la presse, où il disait que c'est Jacques Lang qui avait redonné la culture à la France. Voilà. Alors,
écoutez,
vous jugerez de ses propos.
Absolument. vous parliez de la fête de la musique, et bien moi, en tant que musicien, le jour de la fête de la musique, je ne touche pas à mon piano. Il reste fermé. Mais oui, regardez le 1er mai, qui est la fête du travail.
Ben, oui.
Eh bien, aujourd'hui, le 1er mai, on n'a plus le droit de travailler. Et les salariés, j'ai beaucoup de commerçants qui n'ont pas, qui doivent ne pas faire venir, surtout, leurs salariés. Non.
C'est une inversion. Voilà. On est dans une société d'inversion. Ça, pour ça, comme pour autre chose, on est dans une société d'inversion.
Donc, ce jour-là, le jour de la fête de la musique, je n'ouvre pas mon piano. Bon, il reste au repos.
Je vois que Eric a des principes.
voilà.
Mais par contre, dans toute ma carrière, moi, j'ai joué pratiquement toutes les fêtes de la musique.
Oui, bien sûr.
Et dans les orchestres professionnels. Et je vous dis, pour moi, c'était un dévoiement de l'origine, de l'idée, de la bonne idée de cette fête de la musique. L'amour en musique, célébré par l'opéra la plupart du temps. Alors l'opéra, ou dans tous les styles d'ailleurs, parce qu'il y a des suites. Je parlais tout à l'heure des couples mythiques. On aura peut-être l'occasion d'évoquer Roméo et Juliette. Certes, il y a des opéras de Roméo et Juliette qui ont traité ce sujet, mais il y a aussi des symphonies, il y a aussi des ballets qui ont traité ce sujet. Alors, quelques musiques, si vous le voulez bien. J'ai choisi pour vous des musiques un tout petit peu, parfois un peu originales, qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre. Et en particulier, voici le premier texte. Alors, c'est l'amour frivole. Ce sont les fêtes du château de Sceaux, qui étaient tout à fait comparables à celles de Versailles, d'ailleurs. Et les amours de Ragonde, de Jean... je ne veux pas écorcher son nom, Jean-Joseph Mouret,
oui,
dont je rappelle les dates, 1682-1738. Alors c'est tout à fait particulier, il y avait à l'époque une liberté d'expression assez sympathique, je dois dire, car j'aurais pu aussi choisir toutes sortes de textes musicaux encore plus anciens du Moyen-Âge, où nous avions... des musiques, quasiment des musiques populaires, des musiques de marché, des musiques villageoises, des musiques souvent assez grivoises d'ailleurs, dans le bon air gaulois, n'est-ce pas ? Et ces musiques étaient souvent reprises à l'église. C'est-à-dire que pour que les gens, pour que les fidèles puissent chanter à l'église, on utilisait la même mélodie. Les paroles étaient très différentes, vous imaginez bien, cher Eric.
C'était l'amour du Seigneur.
Voilà. L'amour humain est une chose, c'est sacré, bon, incontestablement. Toujours est-il que là, je vous propose d'entendre un extrait de la veillée de village, de Jean-Joseph Mouret, Les Amours de Ragonde. Alors c'est tout... Je ne développe pas l'histoire parce que c'est extrêmement compliqué. C'est l'air à la noce que nous entendons ici dans l'excellente interprétation des musiciens du Louvre, dirigée par Marc Minkowski, avec une pléthore d'artistes dont on a beaucoup entendu parler. Là, c'était presque le début de leur carrière, d'ailleurs, parce que le disque est assez ancien, 1992, et par conséquent, nous nous régalons de ces musiques. Thank you.
danse. Allons, allons, accourons tous. Allons, allons, accourons tous. Rions, chantons, dansons, faisons les fous. Rions, chantons, dansons, faisons les fous.
Allons, 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 va jouir d'un plus doux avantage, rend objet de ses soupirs, il les inspire, il les partage. Allons, 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 allons,
chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la musique et de la culture dirigé par Didier Rochard, qui aborde aujourd'hui quelques commentaires de la vie culturelle, la fête du Tête, et à l'occasion de la Saint-Valentin, l'opéra célèbre l'amour, et je rajouterai, si vous permettez, l'amour inspire l'opéra.
Certes.
Et la joie de vivre, peut-être
combien,
aussi,
oui.
On va.
Cela dit, l'opéra, comme je le disais tout à fait au début de l'émission, la plupart du temps, l'amour est traité d'une façon tragique, puisqu'il est bien rare que l'amant ne tue pas sa maîtresse ou sa femme. Il est très rare que la maîtresse ou la femme ne tue pas l'amant.
Là, c'est quand même un esprit étriqué.
Là, nous étions dans Les Amours de Ragon, de Jean-Joseph Mouret. Nous étions dans c'est la veillée de village. On sent bien, c'est tout à la joie, mais une joie qui est quand même... magnifiquement traité par le compositeur, naturellement, et par sa musique, mais qui est un tout petit peu scabreuse, puisque c'est une personne d'un certain âge qui entreprend le fiancé de sa fille. Enfin bon, on est, voilà, dans une liberté, pour ne pas dire un libertinage.
Écoutez,
qui était tout à fait de mise à l'époque.
Une belle-mère qui aime son gendre, c'est formidable. Écoutez, souvent, ils sont en conflit, mais pas du tout.
Je vois le bon esprit d'Éric dans cette formule. Alors, donc, c'était pour illustrer l'amour frivole, n'est-ce pas, la fête... l'amour à la campagne. C'était dans la création de cette pièce a été donnée dans les fêtes du château de Sceaux, qui était un endroit extrêmement important pour la culture à l'époque de Louis XIV.
Aimons-nous les uns les autres.
Voilà. Oui, je ne ferai pas de commentaire. l'amour fidèle dans le couple, chers auditeurs, ça existe aussi à l'opéra. Et là, Mozart nous donne, dans La Flûte enchantée, un air tout à fait particulier. Alors, c'est évidemment Pamina et Papageno qui chantent. Et ils chantent la puissance de l'amour qui élève jusqu'à la divinité l'homme et la femme inséparablement unis. Voilà. Absolument. Ça, oui, c'est Mozart, et c'est à l'époque où Mozart a composé sa flûte enchantée, c'est assez particulier, j'allais dire, parce que précisément nous sommes dans une époque de liberté relative en matière de relations dans les couples, enfin, etc. Oui. Et là, c'est quelque chose, la divinité de l'homme et de la femme inséparablement unies.
Après une initiation, bien sûr.
Mozart. Souhaite longue vie et beaucoup d'enfants à Tamino Nicolas Gedai, ténor, et Pamina Gundulayanovic, soprano. C'est pour moi une des plus belles versions de la flûte enchantée, dirigée par Otto Klemperer avec le Philharmonia Orchestra et les chœurs. C'est un enregistrement de 1964 qui était paru sur vinyle et que l'on retrouve en 1989, donc en disque compact. C'est une très, très belle
C'est une merveille, cette interprétation. Oui. Mais effectivement, elle a eu sa gloire dans ces années-là. Elle avait été repérée à l'Opéra de Paris, bien sûr, par...
Lieberman.
Voilà,
bien sûr.
Rolf Lieberman,
qui a fait beaucoup de bien à l'opéra, mais qui a fait aussi quelques... qui suis-je pour juger, comme on dit, mais qui a fait aussi... C'est lui qui avait supprimé la troupe permanente de l'opéra.
Oui, c'est dommage. Oui.
Et ça, ça a mis au chômage un certain nombre d'artistes qui pouvaient enchaîner d'un jour à l'autre des rôles totalement différents. Il y avait tous les décors qui étaient prêts, enfin, etc. C'était une époque très vivante de l'opéra et qui n'était pas, entre guillemets, figée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des productions qui coûtaient énormément cher, d'ailleurs, qui coûtaient des fortunes. Voilà, bon, c'est une autre époque, là encore.
Mais il a été le premier à filmer l'opéra.
Ah, mais bien sûr.
C'était le premier avec Don Giovanni. Voilà. Et où Gundula Janowitz...
Interprété déjà. Voilà.
Oui, absolument.
Alors, nous allons passer à un amour un peu plus mélancolique, si vous le voulez bien. C'est Werther de Massenet. Massenet 1842-1912, et c'est l'air de l'acte 1, Rêve et Extase. C'est Charlotte et le ténor Georges Till qui vont nous les interpréter. Et c'est un enregistrement de 1931. Et c'est extrait d'un coffret tout à fait remarquable de 11 disques, L'art français du chant, que j'avais eu l'occasion d'ailleurs de chez Forlan, que j'avais eu l'occasion de présenter au moment de la sortie de ce coffret. C'est tout à fait remarquable. C'est le chœur et l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra Comique sous la direction d'Eli Cohen, enregistré en 1931. Vous allez voir, Georges Till et Ninon Valin ont une diction absolument merveilleuse. On sent que ce sont des gens d'opéra, bien sûr, des chanteurs, mais des gens de théâtre, avec une diction parfaite. Et ça, c'est assez rare aujourd'hui. Et voilà. Alors, on va trouver Charlotte qui se languit de son amour pour Werther, qui, lui, passe à côté sans rien voir. Ça peut arriver. Que voulez-vous ? Voici donc Rêve, Extase, extrait de Werther de Massenet.
Moi, j'en mourrai.
mon époux.
Werther de Massenet, très belle musique, malheureusement qu'on retrouve assez peu à la scène. C'est dommage parce qu'il y a des richesses dans l'opéra français absolument merveilleux. Et voilà.
Mais c'est une musique difficile à interpréter, bien sûr, mais également pour un mélomane qui écoute, pour suivre.
C'est un univers dans lequel il faut rentrer. Et, alors, il y a beaucoup de compositeurs qui sont comme ça, mais c'est vrai que le bel canto italien est plus chatoyant, en quelque sorte. Donc, on l'entend plus volontiers, même sans trop faire attention. Là, il y a une intrigue, il y a quelque chose, et la musique l'exprime magnifiquement bien à travers les tonalités, à travers l'esthétique même de la composition. Alors, après l'amour frivole, après l'amour fidèle dans le couple, alléluia, après l'amour mélancolique, voici l'amour trahison, parce que ça existe aussi, que voulez-vous. Et à travers Samson et Dalila. Alors, et pas comme j'avais entendu sur une très grande radio musicale française, Samson et Dalida. Mais que voulez-vous, voilà, on peut être victime.
C'est un autre chapitre, là.
Samson et Dalila. Alors là, c'est la trahison quand même. Dalila, on pardonnera à Christa Ludwig, mezzo-soprano, de jouer ce rôle. Magnifique d'ailleurs, dans une interprétation absolument prodigieuse. C'est James Keane qui va interpréter Samson. Et alors, ça rejoint quasiment, l'actualité tragique de notre époque, puisque tout se passe à Gaza. Voilà, Samson et Dalila se passent à Gaza. Là aussi, chers auditeurs, je vous encourage à écouter l'intégralité de cet opéra de Saint-Saëns qui est tout à fait merveilleux, tout à fait bien écrit, magnifiquement écrit. Voici donc l'amour-trahison. Dalila va donc chercher l'amour de Samson pour le tuer. Alors évidemment, je passe sur l'histoire, c'est assez complexe, comme d'habitude dans les opéras, mais on n'entend qu'un petit air, donc il faudra suivre ça avec attention. Voici donc Christa Ludwig et James Keane dans la grande scène de Samson et Dalila.
Oh,
Voilà, nous quittons à regret, certes, Saint-Saëns, Samson et Dalila, avec cette là également très belle distribution, Christa Ludwig, mezzo-soprano, et James Kean, ténor. C'est l'orchestre de Bavière. Ça va nous rapprocher un peu de l'Allemagne pour entendre quelques extraits de Tristan et Isolde. Alors, Tristan et Isolde, ça fait partie des, évidemment, ils font partie des couples mythiques de l'amour. Alors, là aussi, ne rappelons pas l'histoire qui est extrêmement complexe. C'est un très beau écrit du Moyen-Âge, d'ailleurs, hein, vers 1210, la première histoire. Et c'est Gottfried von Strasbourg, de Strasbourg, qui a inspiré, finalement, qui a repris des vieilles légendes irlandaises, etc., et qui a permis à Wagner de découvrir ce qui l'intéressait beaucoup, naturellement, dans sa mythologie. Wagner va découvrir cette légende en 1840, la légende de Gottfried de Strasbourg, mais bien d'autres l'ont exploité, si je puis dire, et dans l'enregistrement que je vous ai trouvé de la légende initiale, avec les musiques initiales, qui sont une reconstitution, puisqu'on va entendre quelques textes dans le disque que j'ai là, on entend des textes de Tristan de Gottfried de Strasbourg, des textes de Tristan de Thomas de Bretagne, qui est encore plus ancien, puisque Thomas de Bretagne a écrit ses légendes en 1170, vers 1170. Alors c'est tout à fait intéressant, c'est Joël Cohen qui a, avec sa Camerata de Boston, avec Henri Ledroit, qui a fait un travail, lui, à l'époque, absolument remarquable pour la musique du Moyen-Âge. Et donc, tous ces interprètes ont fait une reconstitution. Et c'est tout à fait intéressant. Alors, le texte que je vous ai choisi parmi toutes ces plages, c'est celui de Gottfried, effectivement. Et là, c'est quasiment la nuit de noces, si l'on peut dire, mais c'est difficile de dire de noces, puisqu'ils n'étaient pas mariés, bien évidemment, enfin, bien évidemment, dans la légende, ils ne sont pas mariés, puisque Tristan est chargé d'aller chercher la fiancée qu'il doit ramener au roi. Et il y a une servante qui donne, par inadvertance, un filtre d'amour, et naturellement, Tristan et Isolde vont tomber éperdument amoureux. Et là, c'est leur première nuit. Or, dans le texte, je ne vous le dirai pas en vieil allemand, naturellement, mais « Or prirent Isolde et son amant toutes sortes de plaisirs, et dès que survint la nuit, Tristan s'en alla la retrouver. » Voilà, c'est le texte donc de Tristan et Isolde, version, si je puis dire, tout à fait originale, remise en musique et rassemblée plus exactement pour Erato par Joël Cohen.
Het Isot und ihr Amis, ihr kurze Wiele manne gewies. Tristan, du es nachtende ward, sleich aber uff sine Fahrt. Re glorius verein lüse klartas. Dius puderus vos plas al meu cumpan sias fizel sagir
C'est donc à partir de ces textes de Gottfried de Strasbourg que Wagner va s'inspirer et va écrire donc son Tristan et Isolde, qui prend évidemment, comme d'habitude chez Wagner, des proportions absolument énormes, considérables, etc. Mais Wagner va, par rapport au texte même initial de ces Tristan et Isolde qui ont été donnés en l'an 1200, 1170, oui, etc. Wagner va chercher dans son opéra à donner, une expression des personnages beaucoup plus intense, beaucoup plus intime, si je puis dire, avec toutes sortes de compositions psychologiques très subtiles. Et c'est ce qui va donner donc cet immense opéra dont je vais vous donner un petit extrait simplement. La scène où Tristan, donc c'est la même scène à peu près, quand Tristan va être pris d'une passion débordante pour Isolde, mais c'est du Wagner, alors évidemment on rentre dans un univers tout à fait différent. C'est d'ailleurs dans cet esprit du dialogue amoureux que Wagner va s'inspirer de beaucoup de compositeurs de son époque, un peu avant et pendant son époque. C'est ce qui va donner d'ailleurs plus tard un certain nombre de compositions, à la fois de Wagner, qui, en réformant totalement le style de l'opéra allemand, initier toutes sortes de développements musicaux qu'on aura plaisir à vous faire entendre, chers auditeurs, un jour ou l'autre. Voici donc le Tristan et Isolde de Wagner, un extrait dans la version avec Margaret Price, René Collot, Brigitte Fassbinder, Dietrich Fischau, etc. Et j'ai pris la version de la Deutsche Grammophon avec Carlos Kleiber, car c'est peut-être lui qui, dans cette interprétation, donne le véritable sens des personnages, comme je le disais, avec une étude psychologique très particulière. Carlos Kleiber était un chef d'orchestre tout à fait remarquable, mais très, très difficile à travailler avec lui. C'était des heures
c'était
de répétition.
Très pointilleux.
Extrêmement pointilleux. Voici donc un court extrait du Tristan et Isolde de Wagner. Je vous recommande, chers auditeurs, cette version de l'opéra de Wagner. Voilà, nous allons laisser le tumulte des amours de Tristan et Iseut à travers Wagner et on va accueillir Mélisande Chauveau qui va également nous raconter un couple merveilleux Le tumulte, oui, on peut le dire quand même. Le tumulte
des amours de Clara
et de...
Robert
Schumann dans Raconte-moi la musique.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Son existence, qui devait par la suite dispenser tant d'harmonie, débuta pourtant par une dissonance. La petite Clara naît le 13 septembre 1819 à Leipzig. Son père, Friedrich Wick, tient un double commerce, non, plutôt triple commerce sur la place du marché. Il loue des pianos et des partitions, donne des leçons de piano, c'est un pédagogue très réputé, et pour arrondir ses fins de mois difficiles, pratique aussi le métier d'usurier. Il a épousé une de ses élèves, Mariana Tromlitz, qui lui donnera 5 enfants, dont la petite Clara, qui sera la deuxième. Du matin au soir, Monsieur et Madame Wick donnent des cours. Le couple ne s'entend pas et les disputes éclatent constamment entre les deux époux. On nous décrit M. Wick comme un véritable tyran d'une dureté inflexible et d'une partialité abrupte qui, de surcroît, ne comprend absolument rien à l'âme féminine, laquelle, on le sait, a tant besoin de soins vigilants et de délicats égards. Un jour, Mme Wick, n'en pouvant plus, plante là son paysan têtu, comme l'appellera plus tard Schumann, et s'en va à Plön, où bientôt elle fondera un nouveau foyer. Que se passe-t-il ce jour-là? On reste sans témoignage. Le fait est qu'elle s'enfuira avec 4 de ses enfants, abandonnant Clara et son mari. La petite, qui n'a que 2 ans et demi, sait visiblement déjà lire et écrire, puisqu'elle tient un journal et y note le 12 mai 1821 qu'elle a perdu sa mère. Voilà donc la malheureuse enfant livrée au domestique et au terrible Wick. La fervente qui l'élève ne s'émeut nullement du sort de la petite fille, ne manifestant ni compassion ni tendresse, ne desserrant jamais les dents. Clara confiera plus tard. « J'entendais jouer beaucoup de piano, et ainsi mon oreille se forma plus facilement aux sons musicaux qu'elle ne s'accoutuma aux sons oraux. Je prolongeais ma cure de silence » jusqu'à ma 8e année.
Thank you.
toute petite donc, l'enfant sans mère va dépendre exclusivement de la direction de son père. 1825, Monsieur Vic consent à prêter sa fille à son ex-femme. Il lui adresse ce billet ultimatum. « Madame, je vous envoie présentement ce qui me reste de plus cher au monde, mais j'y mets une condition préalable, c'est que vous ferez le silence sur tout, que cet enfant innocente n'entendra rien qui puisse lui inspirer le moindre doute. En outre, vous lui donnerez peu de gâteaux, vous ne lui passerez aucun caprice, et quand elle jouera, ne la laissez pas presser le mouvement. » Je compte que mes désirs soient strictement exaucés, sinon je prendrai la chose du mauvais côté. À cette époque, en effet, Clara a commencé l'étude du piano, sous la férule de son père, bien sûr. Il est révélateur de dire que 2 ans avant qu'elle naisse, M. Vic avait décidé que son ou sa deuxième enfant ferait une carrière de pianiste virtuose, et comme l'intéressée le dira elle-même, « s'il m'a prénommée Clara, c'est parce que cela ferait bien sur l'affiche. » La petite fille a une mémoire musicale étonnante et son père la dresse à toujours jouer sans partition. Il enferme aussi le corps de l'enfant dans un chiroplaste, sorte d'instrument barbare que l'on adopte au clavier pour assurer la bonne tenue du buste, des bras et des doigts. En ces temps-là, il était inconcevable qu'un enfant n'obéisse pas à ses parents. Aussi, Clara se plie-t-elle sans broncher aux ordres de son père qui lui impose un véritable régime de caserne. On se demande encore aujourd'hui comment la petite ne fut pas complètement écœurée du piano et de la musique. Loin s'en faut. Elle est solide. Et ses pratiques d'un autre âge ne la traumatisent nullement. Au contraire, elles la fortifieront encore davantage. La femme future se dessine déjà. Une volonté de fer, sévère pour elle-même, ne ménageant jamais sa peine. Pour l'heure, c'est spontanément qu'elle retourne à son clavier après ses heures de gamme emprisonnées dans son chiroplaste. Son piano, c'est son ami, son confident, son doudou. Elle a 6 ans lorsqu'elle va au concert pour la première fois et entend une symphonie de Beethoven. Elle note dans son journal « Cela m'agita violemment ». C'est aussi l'époque de son premier concert. Au programme des sonates de Mozart, l'invitation à la valse de Weber, des pièces de Czerny, Kramer, ses doigts ont déjà une agilité et une endurance incroyables. Goethe, qui l'entend, lui dit « Jeune fille, Vous avez plus de force que 6 garçons réunis. Monsieur, son père pédagogique, décide que sa fille doit également apprendre le violon et commencer l'étude de l'harmonie. Aussitôt dit, aussitôt fait, et quelques mois plus tard, l'enfant publie déjà des polonaises chez Hofmeister. Vie spartiate, travail acharné. La petite Clara grandit sans tendresse et la musique est, dès son plus jeune âge, sa seule consolation. Son redoutable père la chérit comme un trésor, mais ne sait le lui montrer. Au soir de sa vie, quand le passé apparaîtra sous une lumière plus douce, elle écrira « C'est à mon père et à nul autre que je dois cette ardeur pour l'art. Ce fut aussi un bienfait pour moi qu'il ait été extrêmement sévère, mais blâmé là où je le méritais. Il a empêché ainsi que les louanges du monde me rendissent orgueilleuse. Souvent le blâme était amer, mais il avait quand même son bon côté. » Un jeune homme frappe à la porte d'Evic. Il veut travailler avec le professeur. Venu de Zwickau, incapable de choisir entre ses deux passions, la littérature et la musique, il a finalement opté pour le droit pour faire plaisir à sa mère. Cependant, il s'ennuie à mourir à la faculté et débarque soudain chez M. Vic pour y travailler sa technique pianistique. Pour la première fois, les destins de Clara et Robert Schumann vont se croiser. Depuis toujours, le père Vic comptait bien monnayer ses efforts en espèces sonnantes et trébuchantes. Aussi organise-t-il en 1831 la première vraie tournée de sa fille. À Weimar, le grand Goethe les accueille à bras ouverts. Supporter inconditionnel de Clara, c'est bien grâce à son influence et sa recommandation que la salle sera archi comble le soir du concert et que la petite jouera devant toute l'élite de la ville, sauf Hummel. Le maestro n'aime pas beaucoup les pianistes qui risqueraient de lui faire de l'ombre, encore moins quand il s'agit d'une gamine de 11 ans. La tournée se poursuit, Erfurt, à Arnstadt, ancienne résidence de Bach, où Clara ne réussit pas à sortir le public de sa torpeur. Seul un critique écrira « Jeu grandiose, lié, avec cela tant de brio et de solidité. Sous ses mains, l'instrument se métamorphose. » Puis viennent Darmstadt, Mayence et enfin Paris. Paris, seule ville qui puisse donner à un artiste l'estampille définitive. Tous les grands virtuoses s'y trouvent, Chopin, Liszt, Mendelssohn, Paganini. Mais il y a aussi des bagarres politiques et le choléra. Aussi nos deux voyageurs ne s'y attardent-ils guère. Retour à Leipzig. Elle retrouve son grand camarade Schumann qui la trouve bien grandie et dessine d'elle un si joli portrait, toute fine, toute menue, avec un grand front intelligent et des yeux en amande comme une petite chinoise. C'est un peu son grand frère et sans en avoir conscience, il s'aime déjà. Le jeune homme a beaucoup composé pendant l'absence de la fillette. Il lui apporte ses papillons qu'elle crée en concert. Son jeu, écrit-il, s'insinue dans le cœur et parle à l'âme. Elle est déjà sa muse. L'enfant prodige est devenue une magnifique soliste reconnue de tous. Elle a 16 ans. Le 25 novembre, elle échange avec Schumann leur premier baiser. Fêté le soir dans la maison des Vic, Clara, de saisissement, laisse tomber le bougeoir qu'elle tient à la main et manque même mettre le feu à la maison. Monsieur Vic ne s'aperçoit de rien pour l'instant. Schumann, situation peu banal, trouve qu'on les laisse trop libres et imagine alors que le professeur l'a choisi pour gendre. Combien l'année 1836 n'allait-elle pas le détromper? Vic commence à voir clair et c'est une bataille acharnée qui va s'engager entre le père et les deux amoureux. Lutte impitoyable qui durera 5 ans et les conduira jusqu'au procès. Pour l'heure, il interdit toute correspondance entre les deux jeunes gens, expédie Clara à Dresde pendant 4 mois et jette son élève à la porte. De retour au bercail, la jeune fille rencontre Schumann dans la rue. Une tentative du jeune homme pour lui adresser la parole, une poignée de main non payée de retour, une froideur apparente. Schumann est brisé, d'autant qu'il vient de perdre sa mère et a tant besoin de réconfort. Vic éloigne à nouveau sa fille en Allemagne septentrionale cette fois. C'est à cette époque qu'elle change son répertoire. Ses épreuves l'ont mûri et Schumann lui a fait découvrir tant de choses. C'en est fini des fadaises de Pixis, Hertz et autres Thalberg. Elle introduit Bach, Beethoven, Mendelssohn et Chopin dans ses programmes de récital. Les années 1837, 38, 39 sont affreuses pour les deux tourtereaux. Schumann est en pleine dépression. Il sent pourtant, il sait au fond de lui que Clara l'aime toujours, mais il décide de renoncer à la jeune fille. Son médecin lui conseille de se marier. « Mariez-vous, mon cher !» Le jeune homme, ne sachant où accrocher son cœur, jette son dévolu sur une certaine Ernestine von Fricken, apprentie pianiste, élève du vieux Vic, ni belle, ni intelligente, médiocre en tout. Il se fiance pourtant à la demoiselle, puis, épouvanté, rompt les fiançailles. Clara apprend tout. Et c'est avec une force incroyable qu'elle ne prêtera aucune importance à cet épisode. Elle sait que Schumann n'a jamais cessé de l'aimer et elle sait qu'elle ne renoncera jamais à cet amour. Ne pouvant le lui dire en secret, c'est en public qu'elle le fera. En effet, dès son retour, son père organise un concert sans même la prévenir. Schumann incognito y assiste. Clara l'aperçoit dans la salle et change son programme à la dernière minute. Elle attaque les études symphoniques de son bien-aimé. C'est un coup d'État. Les deux cœurs ne se quitteront plus. Schumann s'enhardit et le 13 septembre demande Clara en mariage. Demande bien évidemment rejetée par M. Vic. Il est hors de question que sa grande pianiste de fille épouse un obscur compositeur qui, de surcroît, se double d'un ivrogne. Calomnie, bien sûr. Schumann craquera plus d'une fois. Quant à Clara, elle répondra aux attaques ignominies de son père par ces lignes que l'on peut lire dans son précieux journal. Chaque douleur nouvelle jette une étincelle d'amour de plus dans mon cœur. Confiance, voilà ma consolation. Après 5 années d'une guerre sans merci, c'est finalement Vic qui s'épuisera le premier. Il cède et retire sa plainte auprès du tribunal. Nous ne voulons qu'une chose. Nous aimer et nous rester fidèles. Tu me conduiras tout doucement quand ce sera nécessaire. Tu me diras en quoi je me suis trompée et aussi quand j'aurai fait quoi que ce soit de beau. Et de mon côté, je veux en user de même pour toi. Et puis, le soir, tu tomberas toute heureuse sur mon cœur et tu me diras « Non, je ne croyais pas que ce serait si beau ». Le 12 septembre 1840, dans la modeste église de Schönefeld, un pasteur unit pour la vie Clara Wieck et Robert Schumann.
Thank you.
Merci Mélisande.
Oh, c'était merveilleux.
Voilà, ça clôt, merveilleux, ça clôt notre émission sur l'amour en musique d'une façon absolument magistrale.
C'était beau, hein, ça nous fait rêver. Hein. La suite, hélas, c'est moins, moins glorieuse.
Moins réjouissante, puisque le pauvre Robert Schumann va sombrer dans la folie et que Clara va s'en occuper d'une façon extraordinaire.
Épouvantable.
Et elle a vécu 40 ans après la mort.
Exact. Merci Mélisande.
Merci Eric.
Chers auditeurs,
merci Didier.
À dans un mois, 17 mars.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Musique et de la Culture, dirigé par Didier Rochard, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 17 février 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.